Ok, c'est parti. 3, 2, 1. Radio Libellule.
Les ondes positives.
Pour qu'une pensée change le monde, il faut d'abord qu'elle change la vie de celui qui la porte. Citation d'Albert Camus. Et c'est dans la trace de Camus que nous vous annonçons avec joie et grand enthousiasme la naissance de la capsule des rêves. Je vous laisse la découvrir avec Nathalie.
Bienvenue dans la capsule des rêves, un espace où les récits se tissent, se rencontrent et s'inventent.
Êtes-vous prêt pour un petit voyage à dos de feuilles blanches? Ce voyage imaginaire s'adresse à tous ceux qui, équipés d'une simple feuille de papier et d'un stylo, souhaitent s'évader quelques minutes grâce aux mots. Pas besoin d'avoir son certificat d'études, son baccalauréat, ni même d'être un érudit. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Eh bien oui, nous avons tous des mots qui vagabondent dans nos têtes ou s'ennuient au bord de nos lèvres. Il peut s'agir de mots anciens, désuets, de patois, de dialectes, ou même de mots d'une autre langue. Ces mots sont vos mots, ceux qui disent d'où vous êtes et qui vous êtes. Pour pouvoir démarrer, il vous suffit d'être bien installé, idéalement dans un espace calme, à l'abri du bruit et des allées-venues. De prévoir un petit peu d'eau pour le voyage, un stylo qui fonctionne, une feuille de papier ou un petit carnet. Et pour les plus gourmands, pourquoi pas un carré de chocolat pour pouvoir reprendre des forces de temps en temps. Dès que vous le souhaitez, vous pourrez retrouver l'atelier qui va suivre sur le site radiolibellule.resentezvous.fr.
Embarquez dans la capsule des rêves avec Nathalie, direction l'atelier des mots.
Vous êtes tous et toutes les bienvenus, ce sont les mots de Nathalie et ce sont des mots qui sont très très vrais effectivement. Les libellules, c'est tout le monde, c'est cet espace commun que nous formons tous ensemble, alors vous êtes effectivement les bienvenus. Alors vous aviez vu sur les émissions précédentes, on vous proposait d'écrire une fable, d'écrire une lettre, etc. Et bien sachez que maintenant sur le site, nous mettons en place l'atelier des mots encadré par Nathalie et cela vous permettra d'avancer à votre rythme, d'apprendre, de vous lancer et de créer avec nous. Nous sommes tous et toutes des libellules et nous sommes très heureux de vous annoncer le lancement de cette nouvelle rubrique. Sachez qu'il y aura aussi la semaine prochaine et les semaines suivantes des nouveautés sur le site, des chansons audio chantées par des jeunes pour vous, de la musique. On aura vraiment plein de choses, des poèmes, etc. Radio Libellule, c'est vraiment l'espace commun, le monde dans lequel nous vivons tous ensemble autour du récit et du sonore.
Radio Libellule.
Les ondes positives.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour cette 7e émission de Radio Libellule, les ondes positives, le trait d'union entre les générations. Au programme ce mercredi de la cuisine avec l'épisode 3 de Lisa. Une belle création sonore créée par Lara, la belle époque. On retrouve nos chouchous Bernard et Dominique pour parler temps libre, voyage et fête. À bicyclette, on monte sur notre vélo avec Clément et cette fois on monte sur notre vélo tout terrain, le VTT, pour un voyage sensoriel. On parlera bien entendu évolution avec Elisa qui cette semaine nous parlera du cinéma. Le questionnaire bouillon de culture sera légèrement modifié, il s'appelle bouillon de café, je ne vous en dis pas plus, c'est une surprise. Un peu de relaxation et de poésie avec Émilie, le printemps ruisselle, bourgeonnement du monde, renaissance. Encore une belle poésie que vous découvrirez. Et puis lecture d'une lettre ancienne comme la semaine dernière, l'énigme posée par Elisa. Et bien entendu, comme chaque semaine, de la musique et des publicités d'époque. Alors on commence sans plus attendre. On écoute tout de suite l'épisode 3 de Lisa sur sa série culinaire. Après France, après Laurence, elle interroge Rebecca, 32 ans, sur sa vision de la cuisine.
Depuis les 10 dernières années, notre alimentation a beaucoup évolué. Mais l'alimentation a-t-elle une place importante dans nos journées? Et si oui, pourquoi? une autre question venait à moi concernant l'alimentation. Est-ce que c'était mieux avant ? Ce sont les questions que j'ai posées à France, 78 ans, Laurence, 58 ans, Rebecca, 32 ans et Adrien, 22 ans. Si Laurence se sent libre de cuisiner pour se faire plaisir, toi Rebecca, 32 ans, quelle importance accordes-tu à la nourriture ?
Ça a une place primordiale, ça rythme mes journées. Pas parce que je cuisine, parce que j'ai horreur de ça, mais parce que j'adore manger. Les derniers temps, quand j'étais à Abu Dhabi, en général, j'allais manger avec mes collègues au resto. Ou alors, j'ai mangé dans mon bureau des choses que je m'étais préparées.
Est-ce que tu trouves que c'était mieux avant ?
Moi, je pense que je suis assez restée sur la façon que j'avais fonctionné avec quand j'étais avec mes parents, même sur les heures de manger, enfin de quand j'étais petite. J'ai remplacé le goûter par l'apéro. Pour moi, je ne vois pas de différence parce que comme on habitait en plus Marseille, on achetait les courses au supermarché, donc c'est sûr, il n'y a pas de différence dans la qualité des produits ou dans la façon dont on mangeait. Ça n'a jamais été, que ce soit avant quand j'étais petite ou maintenant, ça n'a jamais été de la cuisine élaborée. Personne passe des heures en cuisine.
Et on remercie Lisa pour cette belle série. C'était l'épisode 3. Et on remercie Rebecca qui nous livre un très beau témoignage sur la cuisine. Et qui dit nourriture, qui dit repas, qui dit on a mangé. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'étape juste après ça, eh bien on se lave les dents. C'est parti, petite page de pub.
Radio Libellule.
Les ondes positives.
Aujourd'hui, il y a Bioceptile, la brosse des incisives, des canines et des molaires. La brosse des dents.
Bioceptile, la brosse des dents. Vous l'avez sûrement reconnu, c'était Henri Salvador avec sa belle voix grave qui parlait dans cette publicité. On va s'écouter à présent une magnifique création sonore. Lara, à chaque fois qu'elle participe à l'émission, c'est toujours de la nouveauté, c'est toujours de magnifiques créations, chroniques, etc. Cette semaine, ça s'appelle Mémoire en transit. Alors que je vous explique un petit peu, depuis qu'elle a appris que son papa avait Alzheimer, elle a cartographié ses souvenirs. Dernièrement, elle a embarqué dans une nouvelle aventure qu'elle nomme « Bonne pioche ». En fait, chaque jour, au gré des papiers piochés, une mémoire est visitée, se redessine et s'invente. Je vous propose que l'on embarque tous ensemble à ses côtés pour découvrir ce magnifique instant partagé.
Libellule, la radio qui bulle.
On est le 27 mars. 28 ? C'est la soirée du 28.
Alors
vas-y, tu
peux piocher. Le mot du jour ? Ah bah oui, c'est moi qui pioche. Hein.
Je
peux pas tomber sur quelque chose que j'ai déjà fait. Tu
si,
les as éliminés ?
C'est pour ça, je te dirai.
Ah bon ? Ah, alors, attention. Moi, j'ai mis mes petites lunettes. Alors, il y a âge. Quand j'avais...
Le 25 mars.
Et il y a maison.
12 avril.
Neige. Et de l'autre côté, il y a russe.
Le 15 avril.
J'ai eu mal.
21 mars.
Attention, j'ai mis mes lunettes.
On est le 23.
Je suis très heureux quand...
Le 3 avril.
Une naissance.
29
un mars. Objet chéri. Un train.
Et le 7.
Les dents. on va éviter celui-là. Alors, il y a âge. Quand j'avais...
Ah, on est déjà tombé sur lui.
Oui. Et ouais, mais c'est pas le même papier parce que regarde de l'autre côté, c'est un appartement.
Ouais, il y avait ça aussi.
Ah, il y avait ça aussi.
Ouais, hier. Mmh.
Non.
Si.
Une renaissance. Renaissance, ça me parle. Parce que du fait de mon histoire, quand je suis arrivée chez mes mères. Pour la première fois, j'ai fait une conquête de l'identité. Parce qu'avant, je ne savais pas qui j'étais. Ce n'est pas dans le sens profond du terme, hein, mais j'étais un élément dans l'espace. En fait. Je n'avais pas de racines, je n'avais pas d'affect vis-à-vis de qui que ce soit. Je me souviens des images, des lieux, mais pas des personnes. Les personnes, ça ne comptait pas. Mon premier appartement est plus grand qu'un melon et plus petit qu'une baignoire.
J'étais toujours un enfant en transit.
Il y avait juste une petite fenêtre. Voilà. Boulevard Saint-Martin. Oui, eh ben c'est ça. Ouais, ça vient de là.
Mes attachements étaient totalement bridés, en fait, quoi. Hein, c'est, il fallait que ça passe par autre chose. Ouais, voilà.
Donc j'avais refait tout, mis du beau papier peint.
Ah bon ?
Oui.
Du papier peint ?
Du papier peint tissé, en fait, avec de la laine. Enfin, un très beau papier peint.
Je ne me souviens pas des gens, je ne me souviens que des
et
lieux.
Et j'avais acheté un fauteuil Emmanuel.
Et ce
fauteuil Emmanuel, c'est les fauteuils en rotin, là. C'est du rotin. C'est pas du rotin, comment on appelle ça, là.
Les gens ne comptaient que dans le sens où ils étaient émetteurs d'espace.
Je suis resté pas mal d'années là-dedans. Hein. Mais j'y vais surtout dehors, en fait.
Et ça, ça m'a poursuivi toute ma vie, en fait.
On est le 27 mars. 28, c'est la soirée du 28.
J'avais 6 ans et donc je ne m'appelais pas encore Bouvet. Et j'étais dans une famille d'accueil en Champagne. Et comment ils s'appelaient ces gens-là? Je ne sais plus. Et tous les soirs, il y avait un train qui passait au loin. Et je voyais ce train qui passait au loin comme ça, puis qui sifflait. Et j'avais l'impression d'être au Far West. Ouais. J'étais un cow-boy, et puis que, voilà, il y avait cette plaine-là, il y avait des Indiens qui certainement qui préparaient tout, puis il y avait un train qui passait. Et je restais là, comme ça. Regardez. C'était un rituel. Ouais. C'était mon film à moi. Et c'était extraordinaire parce qu'en fait, je vivais dans un monde qui était totalement immobile. Il y avait que ça qui était animé, en fait. Tout le reste était un décor immobile, factice, qu'on avait mis là parce que, bon, pour moi, mais quand je partirais, ça sera le décor. Puis c'est ce qui s'est passé, de toute façon, il y a une 4L qui est venue me chercher un jour, elle m'a dit, non, bah, ça y est, c'est fini pour toi, on t'envoie ailleurs. Ah bon, t'auras des nouveaux parents, on va dire. Super, en gros, normal.
Une 4L.
C'était une 4L, je m'en souviens. Et dans cette 4L, j'avais vomi pendant tout le trajet.
C'est si beau et si touchant. Lara, merci mille fois pour cette magnifique création sonore. Vous avez vu là les pouvoirs de la radio, les pouvoirs du son. En écoutant, on a l'impression d'être avec eux, on écoute, on voyage au rythme de leur voix. Lara, merci encore et un gros bisou à toi et à ton papa. On va continuer dans les souvenirs et on va s'écouter le grand Johnny Hallyday. Souvenir, ça date de 1960. Belle écoute.
Radio Libellule.
Les ondes positives.
Souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, joue contre joue. Quand nous faisions les fous. Souvenir de nos beaux jours de l'été, lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison. Souvenir, il me reste nos chansons. Des départs dans le matin, où le soleil semblait rire, tout le long de nos chemins. Nous
avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir. Mais nous partions comme Gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, vous revenez dans ma vie, illuminant l'avenir lorsque mon ciel est trop gris. On dit que le temps vous emporte, et pourtant ça j'en suis certain. Souvenir, souvenir, vous resterez mes copains.
Souvenir, souvenir. Ouais, non, mais je vais pas commencer à chanter puisque malheureusement je ne sais pas chanter. En tout cas, souvenir, souvenir par Johnny Hallyday. Ne faites pas les timides, je suis sûr et certain que vos épaules ont bougé. Moi, mes épaules, elles ont bougé vraiment toutes seules au rythme de cette très très belle musique. Souvenir, souvenir par Johnny. Alors maintenant qu'on est en forme, maintenant qu'on a dansé grâce à Johnny, qui on va pouvoir retrouver? Qui nous apporte de la bonne humeur chaque semaine? Qui nous apporte cette joie dans la voix et cette étincelle? Eh bien, c'est Bernard et Dominique pour la chronique Belle Époque. Cette semaine, ils nous parlent des congés payés, du temps libre, la place au voyage et à la fête. Vous allez voir, ils sont encore très en forme et c'est encore toujours un énorme plaisir de les écouter. Bernard et Dominique, c'est à vous.
La Belle Époque par Bernard et Dominique.
À l'époque, l'été 36, c'est vacances pour tous. Pour la première fois dans l'histoire de France.
À l'époque, c'est une véritable révolution sur le plan culturel.
À l'époque, les émissions radio se diffusent dans les maisons.
À l'époque, avec l'arrivée des 40 heures et des congés payés, l'audience va exploser.
À l'époque, de 40 000 postes en 1922, on passe à 5 millions en 1939 pour 19 millions d'auditeurs.
À l'époque, la radio est devenue un espace de divertissement, de culture et d'information pour tous.
Le quart d'heure radiophonique que vous venez d'entendre, présenté par M. Joseph Perret, vous a été offert par Confession, le sensationnel hebdomadaire illustré dont le quatrième numéro vient de paraître avec les confessions de Raymond Dassault, Maurice de Cobra, Guyon Cesbron, la colonelle Vang, Joseph Kessel, la môme Moineau et l'émouvant aveu de maître Jean-Charles Legrand.
À l'époque, avoir une radio constitue un signe d'accès à la société moderne. Les ondes connectent au monde.
À l'époque, le poste est placé au cœur du foyer. Collectif, puis individuel, il fait voyager et rêver.
À l'époque, Radio Libellule est dans son cocon.
À l'époque, le cinéma explose avec 452 millions d'entrées en 1938, record inégalé à ce jour.
À l'époque, on va voir Les Temps modernes de Charlie Chaplin et Pépé le Moko avec Jean Gabin.
À l'époque, on lit « Autant en emporte le vent » en 1937 et « Les raisins de la colère » en 1939.
À l'époque, on va danser au bal dans les salles de fête. Au son des airs d'accordéon et de musette.
À l'époque, pour la première fois, les enfants sont en vacances avec les parents. C'est la fête.
À l'époque, les congés payés permettent de retrouver la famille. Non revu depuis des années.
À l'époque, aller à la plage devient donc possible.
À l'époque, c'est pour prendre une bouffée d'air marin, disent les citadins, qui n'ont encore jamais vu la mer.
À l'époque, peu de Français peuvent s'offrir un moyen de locomotion pour voyager.
À l'époque, qu'à cela ne tienne, on enfourche vélo et tandem pour s'échapper et passer du bon temps.
À l'époque, on est en mode nomade. On se repose et on reprend l'échappée belle.
À l'époque, on voyage léger. On plante une tente dans un champ ou en bord de plage.
À l'époque, mon pépé selle cheval et charrette et offre à la famille la découverte de l'Acano-Océan. 120 km aller-retour.
À l'époque, au menu des vacances, l'ordinaire perdure dans l'assiette, en mode casse-croûte.
À l'époque, On se laisse parfois tenter à un apéritif, une anisette ou un bière.
À l'époque, les voyageurs prévoyants ont fabriqué l'apéritif maison, la fameuse épine noire.
À l'époque, dans les verres, la bière est à la fête, le vin également, rouge ou blanc.
À l'époque, on ne le boit pas encore sous les tonnelles.
À l'époque, il faudra attendre 1943 pour boire...
À le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté de nos gens.
À le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté de nos gens.
À l'époque, Radio Libellule est encore dans son cocon. Et effectivement, j'ai trouvé ça super amusant de faire une allusion à Radio Libellule. Bah, c'était encore super, c'était encore génial d'écouter Bernard et Dominique. C'est toujours le même plaisir. Et ce que je trouve assez incroyable, c'est que dans leur magnifique chronique, ils parlent de cinéma et ils parlent de vélo. Donc vous avez entendu le bruit de la roue qui tourne. Donc vous êtes imaginé le vélo, on a parlé aussi cinéma. Et bien juste après... On va s'écouter la chronique vélo de Clément et puis un peu après, on va écouter la chronique évolution d'Elisa qui parlera du cinéma. Donc c'est magnifique puisque la chronique de Bernard et Dominique, en plus d'être magnifique, eh ben, elle fait complètement le lien avec ce qui suit. Donc tout de suite, on retrouve Clément. Alors c'est parti, vous enfilez votre petit casque. Voilà, j'en ai acheté un là, il est rouge, super, je le mets, je l'accroche. Mettez un casque, hein, c'est important. On se met dans des habits plutôt confortables, un jogging, un short, un t-shirt. Je vous conseille de ne pas mettre de pull parce qu'après on a vite chaud quand on pédale. C'est parti, on enfile le vélo. Prenez un petit antivol au cas où si vous voulez vous arrêter et laisser le vélo quelque part et aller marcher un peu. Et c'est parti, on retrouve Clément. Et cette semaine, eh bien, on va partir encore à l'aventure puisqu'on va découvrir le VTT, vélo tout terrain, un voyage sensoriel. C'est parti tous ensemble sur notre VTT pour un très beau voyage.
À bicyclette avec Clément.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
Aujourd'hui, nous allons découvrir le vélo tout-terrain dans sa pratique loisir. Le VTT débute dans les années 70, dans les montagnes californiennes aux États-Unis. Une bande de hippies, du vélo, bricole et détourne des vélos de route pour dévaler les pentes raides à toute allure. L'objectif, l'adrénaline et sortir des sentiers battus. Le vélo tout-terrain, quand on l'observe, il a des pneus à crampons pour plus d'adhérence, une suspension avant pour les chocs et à l'arrière, aussi pour les chocs mais aussi pour gagner en confort. Des freins puissants à disque ou à patin. Un guidon droit pour plus de maniabilité, plus de confort. Un cadre solide pour résister à la contrainte. Il est le symbole de la fiabilité.
Merci Clément. Encore une fois, on découvre à tes côtés un vélo qui rassemble. On s'imagine dévaler les pentes de Californie avec Jenny Joplin dans les oreilles. Mais cette fois-ci, tu nous parles d'un vélo tout-terrain. Quelle aventure permet-il ?
Tous les dimanches matins de l'année, dans tous les départements de France, se réunissent des passionnés d'aventure à VTT. L'heure est à la découverte d'un nouveau paysage ou même d'une nouvelle région. L'objectif est de découvrir de nouvelles monotraces en bord de rivière ou même cachées dans les forêts les plus denses. Le VTT, c'est l'outil à explorer la nature, de jour, mais parfois de nuit. À la seule lueur d'une lampe frontale, imaginez faire du vélo de nuit. Tous les sens sont bousculés. Armés de notre vélo à toute épreuve, la nature se fait plus proche. Nous nous sentons observés. Le bruit des pas des animaux est proche.
Explorer la nature à la lueur d'une frontale, en osmose avec la nature. Ça donne envie. En quoi ce vélo, Clément, nous permet-il de découvrir de nouveaux paysages ?
Le VTT, le vélo tout-terrain, la machine qui éveille le sensitif. Le VTT stimule la vue, par la découverte de nouveaux paysages, l'opportunité d'apercevoir un animal dans son état sauvage, l'ouïe, entendre le bruit du vent qui caresse les feuilles, découvrir une cascade avant même de l'apercevoir, l'odorat, sentir les nuances printanières, l'odeur des arbres en fleurs, d'une cuisine inconnue dans un pays étranger, au détour d'une maison, le toucher, la sensation de la pluie sur sa peau ou de la rosée matinale. Quel privilège ce vélo, et quelle clé du partage que ce vélo tout-terrain.
Le toucher, la sensation de la pluie sur la peau, voilà encore une belle aventure à tes côtés, Clément. Cette semaine, on va éveiller dans le sillage de ta bicyclette nos sens. Par l'odorat, on va tenter de sentir les nuances printanières.
Alors je tente moi aussi de sentir les nuances printanières. Effectivement, c'est très agréable et je vous invite vous aussi à sentir ces belles nuances printanières. C'était encore magnifique la chronique de Clément. On retient que le VTT stimule les sens, tous. Il stimule tous les sens et ça c'est génial. Et ce que j'aime, c'est qu'à chaque chronique avec Clément, il arrive toujours à mettre en lumière cette notion de partage. Et voilà, le vélo, c'est pas simplement du sport, c'est du partage. Et il l'a très très bien dit dans cette chronique en disant que le VTT, c'est la clé du partage. Alors ça, c'est magnifique. Il n'y a pas besoin de clé pour allumer son vélo, mais c'est quand même la clé du partage. Ça, je trouve ça vraiment incroyable. Et du coup, je me suis posé une petite question. On a vu qu'avec le VTT, on avait fait un sacré effort. Hein. Donc je pense que vous êtes fatigué, vous aussi, comme moi. On transpire un peu parce que c'était quand même une belle balade à VTT, mais ça fait du bien. Je me suis dit, on voit beaucoup actuellement de vélos électriques. Des vélos qui sont assistés d'un petit moteur qui permettent de moins se fatiguer. Voilà, petit bisou à ma grand-mère qui utilise beaucoup ce vélo électrique. Je lui emprunte des fois d'ailleurs, c'est assez amusant. Et je me suis dit, mais ils datent de quand ces vélos électriques? Parce que c'est vrai qu'on les voit souvent actuellement, on en voit beaucoup, mais ils datent de quand? J'ai fait quelques petites recherches et je me suis rendu compte que le premier vélo électrique est né en 1979. Ils appelaient ça à l'époque le vélo santé. On écoute une rapide petite archive qui nous présente ce tout nouveau vélo électrique, le vélo santé.
Radio Libellule.
Les ondes positives.
Monsieur Gouzy, modeste ingénieur des arts et métiers, a mis au point un moteur savamment dissimulé dans le cadre de cette bicyclette de course. Le tube vertical renferme le moteur dont monsieur Barry, ancien champion cycliste régional et minutieux technicien, nous livre le secret.
Dans ces deux tubes-là, nous avons mis les batteries, relayées entre elles par un circuit électrique, et en bout de notre moteur, un réducteur, ce qui permet naturellement de tourner les manivelles à environ 100 tours minute, alors que le moteur, eux, tourne à 6000 tours minute. Vous voyez également ici un pédalier qui n'est pas comme les autres, il est en roue libre. Et nous avons dû faire ce système-là justement pour permettre la roue arrière, lorsqu'on s'arrête de pédaler, que le pédalier tourne encore pour permettre de recharger nos batteries, soit dans les descentes, soit dans le faux plat, ce qui nous donne une autonomie constante des batteries.
La puissance de ces batteries est de 40 watts. 10 watts sont nécessaires pour recharger les accumulateurs. L'autonomie d'utilisation est de 3 quarts d'heure. Dire qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour économiser 20% de l'effort physique habituellement engagé, regardez.
Pour la mise en route, naturellement, nous avons une clé de contact que nous mettons sous la selle, comme ceci. Nous avons mis ici un bouton de contact, si vous voulez, la clé du démarrage. Et vous voyez que ça part comme ça.
Sur Home Trainer, on atteint une vitesse de 45 km à l'heure. Le poids supplémentaire apporté par cette installation à un vélo standard et de 2,5 kg, mais l'utilisation de matériaux plus légers permettra de diminuer cette charge. La puissance maximum que peut développer un cyclotouriste bien entraîné peut atteindre 200 watts à 50 tours minute. On constate, en comparant les puissances, que ce prototype n'est pas une mobylette, mais requiert de la part de l'utilisateur une propre disponibilité d'énergie. Que peut donc apporter ce prototype? Comme nous l'avons vu, rien aux cyclistes spécialistes. Par contre, Il fournit à ceux qui ne disposent que d'une aptitude physique modérée une aide non négligeable. Appelons cette machine, si vous voulez, le vélo santé.
Oui, vous avez entendu ce vélo électrique, ce prototype qu'ils appellent vélo santé, en 1979, peut aller jusqu'à 45 km/h. Alors moi, j'ai envie de dire que sur la petite balade qu'on a faite juste avant en VTT tous ensemble, là, franchement, j'avais pas de compteur, mais on était pas loin des 45 km/h. Donc là, tous ensemble, nous, on n'a pas besoin de ce vélo électrique. On s'en sort très très bien avec un VTT. Et en plus, on a un super guide, un Clément, notre prof de vélo, on pourrait presque dire ça. Ça sonne, une petite cloche qui sonne. Oh oui! Oh, j'avais oublié, mais c'est l'heure. Bah oui, c'est... Ouh là là. Je dois prendre mon service au cinéma. Alors, attendez, je vais mettre mon petit chapeau, ma petite casquette de cinéma, mon petit gilet. Pardon, ça prend 2-3 petites secondes. Oui, je... Hop, et voilà, me voilà, enfin prêt. Bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue au cinéma Radio Libellule, le cinéma des ondes positives. Est-ce que je peux avoir votre ticket s'il vous plaît? Merci. Voilà, donc vous êtes placé juste ici madame, vous avez le choix entre le fond de la rangée là-bas. Bonjour monsieur. Oui, le film va bientôt commencer, mais vous n'êtes pas en retard, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous installer là-bas. Dis donc, il y a du monde ce soir pour le nouveau film Radio Libellule. Ah bon, alors monsieur, la place là-bas a été prise, vous avez un petit strapantin si vous voulez vous y mettre. Voilà, est-ce que tout le monde est bien installé? Oui, vous êtes tous au fond de ce beau fauteuil rouge agréable et confortable. La salle est comble et c'est parti, on lance la séance de cinéma. C'est la chronique Évolution par Elisa.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sortez le pop-corn parce qu'on va parler de l'évolution du cinéma de 1940 à 1980. C'est parti. 1940. Comme vous pouvez vous en douter, la première moitié de la décennie a été fortement impactée par la guerre. Aux États-Unis, de nombreuses œuvres aujourd'hui mythiques critiquaient l'image d'Hitler. Pour n'en citer que quelques-unes, il y a eu Le Dictateur, réalisé par Chaplin en 1940, ou encore To Be or Not To Be d'Ernest Lubitsch. Même les dessins animés s'y sont mis, à l'image de Blitzwolf de Tex Avery, qui montre une caricature du dictateur allemand. Nous pouvons donc voir que la propagande était quasiment omniprésente, que ce soit du côté des Alliés que du côté de l'Axe. En France, le cinéma était durement contrôlé par les Allemands et la censure était très utilisée. Mais comment parler des années 1940-1945 sans parler de Citizen Kane? Ce film, qui a été réalisé par Orson Welles en 1941, fut une véritable révolution dans le monde du cinéma, car il a introduit de nombreuses techniques totalement inédites à l'époque, telles que les flashbacks ou les premiers effets spéciaux. La deuxième moitié de la décennie fut quant à elle marquée par le néo-réalisme, qui fut le grand retour du cinéma italien. Le réalisateur phare de ce mouvement était Roberto Rossellini, qui a produit de nombreux films célèbres tels que Rome, ville ouverte, sorti en 1945. En 1946, s'est tenue la première édition du Festival de Cannes. 1950. Le cinéma des années 50 a fortement été influencé par les États-Unis, et deux genres se sont distingués. D'un côté, les westerns, portés par des réalisateurs tels que John Ford, et de l'autre, le film noir. Ces deux genres retracent de deux manières différentes la construction des États-Unis. Les années 50, c'est aussi les années du maître du suspense, Alfred Hitchcock, qui a réalisé des films mythiques tels que Psychose en 59, ou encore Fenêtre sur cour en 54. Autre événement important, l'invention du cinémascope, qui est le grand écran de cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le but était de concurrencer la télévision, et cela a aussi permis de généraliser la couleur au cinéma. 1960. Les années 1960 ont été marquées par le mouvement Nouvelle Vague, qui était alors populaire dans de nombreux domaines. Au cinéma, ce mouvement se caractérisait par de nouvelles techniques de réalisation et de production, et du nouveau matériel, mais pour beaucoup de spécialistes, ce courant était plus un état d'esprit que des techniques. Pour citer quelques films Nouvelle Vague, nous pouvons parler d'À bout de souffle, réalisé par Jean-Luc Godard en 1960, ou de Playtime de Jacques Tati.
Si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre!
Bien que ce mouvement se soit étendu au monde entier, c'est en France qu'il est né, suite à la décision de l'ancien ministre de la Culture, André Malraux, de faciliter l'accès à la création cinématographique. De nombreuses grandes figures du cinéma français ont émergé avec ce courant. Jean-Paul Belmondo, Catherine Deneuve, Brigitte Bardot et bien d'autres. 1970. Les années 70 et le nouvel Hollywood. L'âge d'or hollywoodien est fini et fait place à des réalisateurs plus autonomes. Le style se fait plus sombre à l'image du Parrain réalisé par Francis Ford Coppola en 1972 ou de Taxi Driver de Scorsese.
C'est à moi que tu parles? Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici?
Nous pouvons aussi noter une forte influence de la guerre froide sur le cinéma, comme l'illustre Apocalypse Now, sorti en 1979.
J'aime l'odeur du napalm, mon petit matin.
Cela est dû à l'interventionnisme des États-Unis et aux nombreux conflits en cours à l'époque. Les 70s, c'est aussi l'âge d'or du fantastique. Le premier Alien sort en 1979 et le premier Star Wars en 1977. Les films imaginent l'avenir à l'image de 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Nous pouvons aussi parler du grand retour de l'horreur et du thriller avec des films tels que Orange Mécanique de Kubrick ou Les Dents de la Mer de Spielberg. En France, le cinéma est engagé suite aux événements de mai 68. 1980. Les années 80 ont été spectatrices de la popularité du cinéma d'animation tout droit venu du Japon, qui a majoritairement été porté par le dessinateur Hayao Miyazaki. Il a entre autres réalisé Mon voisin Totoro en 88 ou Le château dans le ciel en 86. Dans le même style, les années 80 ont connu l'émergence des films pour enfants, à l'image des Gremlins sortis en 84 et de E.T. en 82. En France, on aime les comédies à la française, qui aujourd'hui encore sont mythiques. Pour n'en citer que quelques-unes, il y a eu Le Père Noël est une ordure en 82.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile. C'est différent.
Et La vie est un long fleuve tranquille en 88. Mais durant cette décennie, on aime aussi les films romantiques, à l'image de Dirty Dancing sorti en 87.
On ne laisse pas bébé dans un coin.
Et c'est l'âge d'or de l'horreur avec des films comme Shining ou La Chose.
Coucou, chérie.
Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à la semaine prochaine pour parler de l'évolution du cinéma de 1990 à nos jours. Bonne journée.
Mesdames et messieurs, la séance de cinéma est terminée. Ça vous a plu? Super, trop bien. Oui, madame. Oui, il y aura une séance prévue la semaine prochaine, alors je regarde, c'est donc mercredi 13. Oui, vous aurez une nouvelle séance, donc ne vous inquiétez pas, le cinéma Radio Libellule ne ferme pas ses portes. La semaine prochaine, on écoute la suite et on apprend encore plein de choses. Merci beaucoup Elisa pour cette magnifique chronique. En attendant la semaine prochaine, petit conseil de film. Nous vous proposons le film « L'homme qui tua Liberty Valance » avec James Stewart et John Wayne, réalisé par John Ford. Voilà, c'est le choix libellule de cette semaine. Donc, en attendant la prochaine séance, mercredi 13, mercredi prochain, « L'homme qui tua Liberty Valance ». Alors, après une bonne séance de cinéma, on rentre tranquillement chez nous. Et pour être vraiment en joie et être dynamique, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on écoute de la musique. On va s'écouter Vérité. C'est un titre de Claire Laffut et ça date de 2018. Voilà, c'est sorti il y a 2 ans. Vérité par Claire Laffut.
Radio Libellule.
Bonjour. Je m'appelle Claire Laffut, j'ai 23 ans. J'habite à Paris, je suis belge. Qu'est-ce que je dois faire? Une envie partagée, encore peut-être inavouée, peut-être encore jamais dévoilée. Je l'ai vu à la télé. Si je mange, je vais en enfer. Faut t'avouer et ta moitié pardonner. Et on en reparlera si tu dis la vérité. Et j'ai pas le temps me laisser envahir par tous les faux sourires. Et j'ai pas le temps me laisser envahir par tous les faux sourires. Et j'ai tout quitté afin de te trouver. Je t'ai trouvé dans la foi, au fond d'enfuis la moi. Et j'ai tout quitté afin de te trouver. Je t'ai trouvé dans la foi, au fond d'enfuis la moi. Si je mange, je vais en enfer. La 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 la. Si je mange, je vais en enfer. Si je mange, je vais en enfer. Si je mange, je vais en enfer. À quoi tu penses dans mon absence? J'ai un parfum d'espérance au fond de moi. Au fond de moi. Y'a comme un manque de cohérence dans ce malheureux silence au fond de toi. Au fond de toi. trahir par tous les faux sourires. Et j'ai tout quitté afin de te trouver. Je t'ai trouvé dans la foi, au fond d'enfuis la roi. Et j'ai tout quitté afin de te trouver. Je t'ai trouvé dans la foi, au fond d'enfuis la roi. Si je mens, je vais m'en faire. Da, 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 da. Si je mens, je vais m'en faire.
Et j'ai pas le temps de me laisser envahir par tous les faux sourires. Voilà, c'est une phrase que je retiens dans cette belle chanson Vérité par Claire Laffut. Eh bien ici, aucun faux sourire. Radio Libellule, c'est que des ondes positives, c'est que des sourires authentiques, c'est que de l'amour. Nous sommes tous et toutes des libellules. Et cette semaine, nouvelle petite libellule qui partage cette belle émission avec nous, car c'est le moment de passer au questionnaire Bouillon de Culture. Que dis-je ? Bouillon de café. Je voulais rapidement expliquer dans le sommaire, mais cette semaine, c'est une semaine spéciale pour le questionnaire. Il ne s'agit pas du questionnaire Bouillon de Culture habituel. Vous y avez répondu la semaine dernière. Cette semaine, nous avons la chance et le privilège d'avoir au téléphone l'arrière-arrière-petit-fils du créateur, du fondateur des Cafés Maurice. Rappelez-vous, émission 1, il y a un peu plus d'un mois maintenant, nous avions écouté une publicité Café Maurice avec les frères ennemis et on avait pris ce petit café tous ensemble pour reprendre un peu de dynamisme pour terminer cette première émission. Eh bien, au téléphone, aujourd'hui, questionnaire aménagé, questionnaire bouillon de café.
Mais je vous ai pas parlé de Maurice.
Ah, si, vous m'avez dit que ce qu'avait fait Maurice était fameux.
Fameux, ce Café Maurice. Maurice, un prénom ? Non, un café de renom.
Aujourd'hui, pour ce questionnaire Bouillon de Culture, un petit peu de changement, puisque nous avons la chance d'avoir au téléphone l'arrière-arrière-petit-fils de Marc Maurice Lévy, le créateur des célèbres Cafés Maurice. Bonjour Boris.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, et vous ?
Bah écoutez, ça va super bien. Je vous ai préparé, moi, cette semaine, un questionnaire Bouillon de Culture un petit peu aménagé. C'est-à-dire qu'on va pas parler des questions habituelles, mais on va parler du café.
Avec plaisir.
C'est parti. Alors Boris, thé ou café ?
Ouais, café, bien évidemment.
Ça, je m'y attendais. Le meilleur moment de la journée pour boire un café ?
Je pense qu'il n'y a pas vraiment de bon moment. On peut en prendre le matin, allonger un petit peu de lait, ou le prendre après le repas pour... adoucir un déjeuner ou un dîner le soir avec peut-être un peu plus de décaféiné.
Ok,
super. Il n'y a pas vraiment de période.
Pas de moment pour boire un café, c'est quand
c'est
on le souhaite.
Un bon moment
voilà,
pour
c'est
boire
ça c'est magnifique, c'est toujours un bon moment. Alors, expresso ou café crème ?
Moi, je préfère l'expresso.
Ok.
Je préfère l'expresso.
Alors, avec ou sans sucre maintenant, dans l'expresso ?
Toujours sans sucre, c'est comme dire, comme si on dirait de rajouter de l'eau dans du vin. Je pense que pour boire un bon café, et pour en découvrir tous les arômes, il faut que le café soit pur. Alors, si vous devez rajouter du sucre, c'est peut-être que vous n'avez pas trouvé le café qui vous convient.
D'accord, donc un bon café, on le savoure comme ça, sans sucre.
Brut.
Brut. Le café, est-ce que vous le buvez avec une petite gourmandise à côté, ou alors c'est encore brut, simplement le café ?
Ah, avec une petite gourmandise, ça rajoute justement, ça peut rajouter le petit côté sucré qui permet justement d'avoir tous les arômes en bouche et de terminer sur une note un peu plus sucrée.
Super. Est-ce que vous préférez boire un café tout seul, en solitaire ou accompagné ?
Les deux. Quand on passe un bon repas et qu'on termine par un café, c'est un moment aussi de partage. On dit toujours aller boire un café, même si on va boire... un Coca-Cola ou une autre boisson, c'est toujours, est-ce qu'on va boire un café ?
Okay.
Voilà, donc seul ou à plusieurs, pas de préférence.
Mais c'est toujours un plaisir de boire un café.
Mais c'est toujours un plaisir.
Et pour terminer, compléter cette phrase, le café Maurice, c'est...
un vrai délice.
Oh, c'est magnifique. On pourrait presque penser que c'est préparé.
La punchline de l'époque.
Ah, c'est magnifique.
Ouais, c'est vrai que le café Maurice, c'est un vrai délice. Je pense que c'est ce que les gens retiennent de cette marque emblématique des années 1900.
Ok, super. Bah écoutez, pour terminer ce questionnaire, on va s'imaginer qu'on se sert chacun un café. Personnellement, je vais me prendre un allongé. Voilà, vous, je vous sers un expresso,
d'accord.
C'est ça ?
Parfait.
Super,
beaucoup.
C'est parti. On chine, alors que bon, je sais pas si on chine avec un café, mais on peut le faire.
On peut. Alors là, on le fait à distance, on le fait avec plaisir.
Eh bien, super. Bon café, bonne dégustation. Je vous remercie d'avoir participé
merci.
À l'émission. C'était un honneur.
Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. À très vite.
Fameux ce café Maurice. Maurice, un prénom, non, un café de renom.
Et c'était vraiment super d'avoir au téléphone l'arrière-petit-fils de Marc Maurice Lévy, le fondateur des célèbres cafés Maurice. Alors bien entendu, on ne fait pas de publicité sur Radio Libellule, si ce n'est des publicités d'époque. Mais voilà, juste petite information, nous avons longuement discuté avec l'arrière-arrière-petit-fils des Café Maurice. Et après un arrêt des productions Café Maurice pendant près de 40 ans, eh bien, il a décidé de reprendre la production des Café Maurice. Donc les Café Maurice sont de retour. Alors vous avez vu, on a inventé avec Boris le Chin Café. Donc on a inventé ça, je ne sais pas si c'est nouveau ou si on est les premiers à le faire. En tout cas, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne nous aussi un café tous ensemble. Bon, ça va me faire beaucoup de café, je vais être en forme, un avec Boris et un avec vous. Qu'est-ce que je vous sers ? Alors j'ai de l'expresso, de l'allongé, de l'arabique, j'ai vraiment tout ce que vous voulez. Voilà pour vous, on chine les cafés. Voilà, et c'est parti, je bois mon petit café et je ne mets pas de sucre, surtout pas, comme me l'a appris Boris, je ne mets pas de sucre. Alors, pardon, j'étais en train de boire mon petit café. Alors, faudrait pas que le café nous rende trop dynamique, puisque c'est le moment de se poser tranquillement et d'écouter Émilie pour sa chronique poésie. Cette semaine, le printemps ruisselle, bourgeonnement du monde, renaissance. On s'installe bien, on rêve, on s'évade, on voyage par la pensée et on écoute la douce voix d'Émilie.
Libellule, la radio qui bulle. Poésie en arabesque ouvre relation. Le printemps ruisselle. Le printemps ruisselle sur les villes. Les villes bourgeonnent. Le printemps ruisselle sur les villes et ça bourgeonne. Les murs dégoulinent. Les murs dégoulinent de la rosée des matins et ça bourgeonne. La terre renaît. Entends-tu ? Ça bourgeonne. La terre renaît. Le printemps ruisselle. Le printemps ruisselle sur les villes. Et ça bourgeonne. De mur en mur, ça bourgeonne. Ça dégouline de rosée. De mur en mur, ça dégouline. La terre, elle renaît. Et ça bourgeonne. L'air s'infiltre. Et ça bourgeonne. Le printemps ruisselle sur les villes. Sur les villes qui bougeonnent, l'air s'infiltre et ça apostrophe lobe.
les pétales en éclosion s'éveillent. L'air s'infiltre et ça bourgeonne. L'herbe fraîche ruisselle sur les corps dénudés et ça bourgeonne.
Et en fait, je me rends compte que c'était bien d'être dynamique et je crois même que Émilie a dû prendre elle aussi un café juste avant sa chronique poésie. On sent qu'elle est en forme, c'est trop trop bien, ça fait vraiment plaisir. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je t'imagine Émilie presque debout à bouger les bras parce que vraiment c'était une chronique très vivante. La poésie, c'est aussi de la vie, c'est aussi plein de choses, c'est aussi voilà des agitations, on est dedans. J'espère que vous avez réussi à voyager au son de sa douce voix. Merci encore Émilie, ta chronique poétique est toujours très 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 intéressante, elle nous permet de voyager, d'autant plus qu'aujourd'hui j'ai un peu mal au niveau du cou, j'ai du mal dormir dans une mauvaise position, un torticolis, donc la chronique poétique me permet voilà, de relâcher un peu les muscles, de relâcher la tension et vraiment de s'évader. Vous l'avez entendu dans le questionnaire Bouillon de Culture, Boris nous a affirmé que c'était très bien d'accompagner son café avec une petite gourmandise et ça a accentué justement les saveurs et le goût. Si un professionnel du café nous le dit, eh ben alors on va suivre son conseil. Cette semaine, qu'est-ce que je peux vous proposer comme petite douceur? Alors attention, j'avais la semaine dernière des gourmandises. Je vais prendre maintenant ma glacière, oui j'ai investi dans une glacière pour qu'on ait des produits frais, et je vous propose de la glace. Alors c'est parti, on fait les gourmands, on se prend une petite glace Miko qu'on partage tous ensemble, voilà pour vous, voilà pour vous et voilà pour vous. Tout le monde a sa glace, c'est ok? C'est parti, on écoute une petite page de pub.
Radio Libellule.
La nouveauté de l'entracte. Délicieuse crème glacée à la vanille, encapuchonnée d'un délicieux chocolat piqué de noisettes, Jolly Cône, en vente dans cette salle, est une spécialité Miko.
Après tout ça, on va pouvoir se lire une petite lettre d'époque pour voyager un petit peu dans le passé. Alors cette semaine, c'est une lettre de Wilfred Monode à son fils Théodore Monode. Alors pour la petite histoire, en 1910, le pasteur Wilfred Monode écrit à son fils, le futur scientifique Théodore Monode, et lui donne quelques conseils à appliquer en son absence. Alors ça date précisément, c'est noté, hein, du 5 août 1910. Mon cher petit bicycliste, j'ai confiance que, pendant mon voyage, tu te demanderas souvent « Qu'est-ce que papa aimerait que je fasse ?» Et alors cela t'aidera 1. à rendre des services, 2. à ne pas grogner avec maman ou Emma, 3. à ne pas taquiner tes frères et à ne pas être susceptible. Réfléchis bien à ces trois choses et si tu y penses aussi dans ta prière, maman m'écrira que tu fais de grands progrès. Je t'embrasse, papa. Voilà, c'est très court, mais c'est très 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 puissant, c'est super. Et écoutez, pourquoi pas nous aussi suivre ces beaux conseils, hein. On a la liste et on va pouvoir suivre ces conseils. On va maintenant apprendre. C'est très important, chaque semaine on apprend grâce à Elisa. Rappelez-vous, la semaine dernière, elle nous demandait « Mais alors pourquoi ? Pourquoi on trinque ?» Alors je trinque, voilà, et elle nous demandait pourquoi. Eh bien en plus, ça tombe bien, puisqu'on a trinqué, nous aussi, avec notre café, avec Boris, mais aussi avec vous. On va à présent avoir la réponse. Pourquoi trinque-t-on ?
Pourquoi trinque-t-on ?
Bon, alors maintenant, il va falloir m'expliquer.
Cette tradition, qui est aujourd'hui usitée lorsque nous célébrons une fête, un rassemblement ou un repas, tire ses sources du Moyen-Âge. Au tout début, il était habituel de trinquer pendant les banquets pour s'assurer que personne n'avait versé de poison à l'intérieur de notre boisson.
C'est cela, oui.
En effet, les seigneurs avaient l'habitude de trinquer avec force, car en entrechoquant fort les verres, des gouttes de leur boisson pouvaient gicler dans les verres d'autres personnes, et ainsi, si la boisson était toxique, l'empoisonneur était lui aussi empoisonné. Cette petite astuce dissuasive s'est avec le temps popularisée et est aujourd'hui plus un acte de convivialité qu'une menace. Et heureusement.
Ouais, c'est pas faux.
Ils devaient y aller quand même assez fort pour trinquer jusqu'à pouvoir envoyer un peu de ce qu'ils avaient dans leur verre dans le verre de la personne en face. Il fallait, à mon avis, envoyer un vrai coup et ils trinquaient, à mon avis, très très fort. Et comme le dit Elisa, heureusement, maintenant, on ne trinque plus comme ça. Maintenant, c'est seulement convivial. Alors c'est parti, on trinque tous ensemble avec un café ou avec autre chose. Vous imaginez dans votre verre absolument tout ce que vous voulez. De l'eau, par exemple. Voilà, moi je me prends un petit verre d'eau. Mais maintenant, il va falloir qu'on vous pose une nouvelle question. Attention, nouvelle énigme de la part d'Elisa pour cette 7e émission.
D'où vient l'expression « être à poil » ?
Bon, alors maintenant, il va falloir m'expliquer.
D'où vient l'expression « être à poil » ? Je n'en ai aucune idée. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous l'ignorez. On aura la réponse la semaine prochaine. C'est la fin de cette 7e émission. Comme d'habitude, je le dis et je le redis, je le crie haut et fort. C'était un très très grand plaisir d'être avec vous et de passer ce beau moment de partage à vos côtés. On a trinqué, on a bu du café, on a fait du vélo. Autant vous dire que on n'a pas chômé. On en a fait des choses, on a fait plein de choses. Chaque semaine, c'est toujours un voyage que l'on partage tous ensemble et c'est toujours que de la joie, que de la bonne humeur et que de l'amour. On vous aime, on fait plein de gros bisous à tout le monde. Bisous, bisous, bisous. Et on pense à vous. Prenez soin de vous, gardez le sourire et on va se quitter avec la chronique d'une langue à l'autre réalisée par Emma. Cette semaine, c'est Quel monde merveilleux, ou en anglais What a Wonderful World, par Louis Armstrong et par Emma. Et n'oubliez pas que le site Radio Libellule n'est pas seulement un site qui nous permet de diffuser l'émission, mais c'est aussi votre site. C'est aussi là où vous pouvez nous partager vos productions, vos créations. Vous êtes tous des créateurs, nous sommes tous des créateurs. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas, lâchez-vous créer dans ce monde commun qui est Radio Libellule. C'est parti, plein de gros bisous et à la semaine prochaine.
Radio Libellule.
J'aperçois des arbres verts, des roses rouges également. Je les vois s'épanouir pour toi et moi. Et je me dis comme pour moi-même, quel monde merveilleux. Je vois des cieux bleus et de blancs nuages, l'éclatant jour béni, la sombre nuit sacrée. Et je me dis comme pour moi-même, quel monde merveilleux. Les couleurs de l'arc-en-ciel, si jolies dans le ciel, sont aussi sur les visages des passants. Je vois des amis se serrer la main, se dire « Comment vas-tu ?» En réalité, ils se disent « Je t'aime ». J'entends des bébés pleurer. Je les vois grandir. Ils apprendront bien plus que je n'en saurais jamais. Et je me dis tout bas « Quel monde merveilleux !» Je me dis, comme pour moi-même, « Quel monde merveilleux !»
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like my
much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.